franceinter.fr. Le 7-9 sur France Inter.
Le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris est votre invité, Léa Salamé.
Bonjour Frédéric Mion.
Bonjour.
C'est pas trop dur d'incarner l'école des élites aujourd'hui ?
Sciences Po existe depuis bientôt 150 ans, mais ça fait 150 ans que nous avons une mission qui consiste à préparer des femmes et des hommes à assumer des responsabilités de haut niveau dans à peu près tous les domaines de l'activité possible.
Ça fait 150 ans que vous produisez et reproduisez des élites.
Ça fait 150 ans que nous essayons, au mieux de nos capacités, d'accomplir cette mission. Et bien sûr, quand on prononce le mot élite aujourd'hui, on a l'impression de dire un gros mot. Mais ce mot, je crois qu'il faut le revendiquer, pour autant qu'on est à cœur de les renouveler, ces élites, et c'est ce à quoi nous nous employons.
C'est-à-dire que vous assumez, en fait, vous dites, malgré l'air du temps aujourd'hui, on le voit bien, de Trump à la nouvelle maire de Rome, élue à 67% hier, en passant par les partisans du Brexit, c'est le même mot d'ordre, c'est la même rengaine partout dans le monde. Abat l'establishment, le système, abat la casta, comme disent les Espagnols. Et vous, vous dites, bah non, on assume, on est ça.
Ce que nous assumons, c'est, non pas pour ce qui me concerne, d'essayer d'expliquer ce phénomène. Je ne suis pas politiste, je ne suis pas sociologue, et je laisse à d'autres, à nos professeurs, le soin d'essayer de trouver les causes profondes de cela. Ce que j'assume, c'est deux choses. C'est le fait que pour recruter nos élèves, nous allons les chercher dans toute la diversité de la société française et du monde. Aujourd'hui, les élèves de Sciences Po, c'est 30% de boursiers sur critères sociaux. C'est 46% d'élèves internationaux. Et je crois que la première mission qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que toute la diversité du monde soit présente à Sciences Po. C'est comme ça qu'on comble le fossé entre la population et ses élites, si c'est comme ça qu'il faut les baptiser. La seconde chose que nous veillons à faire, c'est de ne jamais renoncer à placer nos élèves dans la situation de toucher le concret, la réalité du doigt. Ils vivent une année d'immersion complète à l'étranger. Ils vivent dans les exercices qu'ils doivent accomplir à Sciences Po, des mises en situation, des stages, des travaux collectifs qui sont autant d'occasions pour eux de se confronter à la complexité du monde. Et enfin, ce que nous assumons, c'est le fait de ne jamais renoncer à essayer d'aider nos élèves à comprendre la complexité de ce monde pour le transformer demain. Et je crois qu'il faut, et ça c'est notre rôle en tant qu'université, se garder des explications simplistes et binaires. Nous sommes là avec nos outils, les sciences sociales, pour essayer d'élucider les questions liées aux régulations économiques, aux conflits internationaux, au terrorisme, aux migrations.
C'est ça qu'on reproche aujourd'hui plus que jamais à la classe politique actuelle, donc formée souvent par Sciences Po, en tout cas les 6 présidents de la 5e République sont passés par Sciences Po, c'est d'être complètement coupé du concret, d'être dans un autre monde.
Je crois que c'est une vision un peu datée de ce que nous faisons et de ce que nous sommes. Et comme je vous le disais, le Sciences Po d'aujourd'hui est très différent même de celui que j'ai pu connaître moi quand j'y étais étudiant il y a 25 ans. Ce Sciences Po, c'est un Sciences Po extraordinairement divers. Sa diversité, sans doute, est sans commune mesure avec celle des autres établissements en Europe continentale.
L'évolution est notamment due à l'installation des ZEP, dont on a beaucoup parlé il y a 15 ans quand Richard Descoix, votre prédécesseur, a instauré les ZEP à Sciences Po. Aujourd'hui, 10% des étudiants diplômés de Sciences Po sont issus de ces zones prioritaires d'éducation. Est-ce qu'on a un bilan sérieux des ZEP 15 ans après ? Est-ce que vous savez aujourd'hui si un élève issu des ZEP a le même parcours et les mêmes débouchés professionnels qu'un autre ?
Alors bien sûr, nous suivons ces élèves avec beaucoup de soin. Comme vous l'avez dit, l'innovation majeure a consisté à se dire que les élèves qui viennent de lycées qui sont objectivement défavorisés n'ont pas les mêmes chances de succès aux épreuves classiques d'entrée à Sciences Po que les autres. Et donc il a été nécessaire d'inventer pour un processus particulier d'admission à Sciences Po et bien sûr ensuite un processus d'accompagnement lors de leur scolarité à Sciences Po, du moins les premières années de cette scolarité. Et ce qui est remarquable, c'est que, passé les deux premières années, le parcours d'études de ces élèves et leur insertion dans la vie professionnelle est rigoureusement semblable à celui des autres élèves. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé lorsque j'ai regardé les chiffres de près, c'est qu'ils étaient moins nombreux à choisir les carrières de la haute administration. Et ça, pour moi, c'est une question. Est-ce que le motif est économique ? Il faut très vite un retour sur investissement. On a choisi de faire des études longues, mais il faut que ces études puissent payer.
Les gens issus des élèves choisissent plutôt d'entrer dans l'entreprise.
De rejoindre le privé. Ou bien est-ce que c'est, de leur part, une forme d'autocensure qui se manifeste à nouveau à ce moment-là, parce qu'ils ont peur d'affronter ces concours administratifs.
Frédéric Mion, le Front National a fait son entrée à Sciences Po, plutôt son retour, parce qu'il était déjà présent dans les années 70 notamment. Une association FN à Sciences Po s'est créée il y a quelques mois. La banalisation du Front National va jusqu'à chez vous, jusqu'à la rue Saint-Guillaume ?
Vous savez, sur le sujet, je crois qu'il y a vraiment un effet de loupe qui est assez troublant. À Sciences Po, il y a quelque chose comme 200 associations reconnues aujourd'hui. Les élèves qui ont jugé bon d'annoncer la création d'une d'une section Front National, je ne sais pas comment il faut l'appeler.
Baptisé Jean Moulin. Jean Moulin, alors, ça vous a pas ému?
Ils ont un sens aigu de la communication. Ils ont fait un communiqué fin août pour dire on va créer une implantation du Front National à Sciences Po. Ils ont eu 2 mois d'accès à tous les plateaux de télévision et de radio. Ensuite, ils ont dit on va s'appeler Jean Moulin. Ensuite, ils ont fait référence à Pierre Manasse France. Ces élèves, c'est quoi? C'est peut-être une dizaine en tout de militants. 10 militants sur 13 000 élèves, ça donne juste une idée de la proportion dont on parle. Et je crois qu'il y a à la fois un effet de loupe, un effet d'amnésie un peu aussi, puisque comme vous le disiez, le Front National a déjà été présent à Sciences Po dans les années 80 ou 90. Est-ce qu'il est surprenant que Sciences Po soit traversé par les mêmes courants que la société et que là où le Front National est à 30% dans les urnes, quelques élèves se réclament du Front National à Sciences Po aujourd'hui? La réponse est non. Évidemment, nous ne sommes pas une bulle et un silo. Est-ce qu'il est choquant que le Front National puisse avoir voix au chapitre à Sciences Po? La réponse est pas vraiment non plus, parce que nous sommes, par essence, le lieu du débat, et c'est grâce au débat que nous formons des citoyens et des citoyennes éclairées.
En gros, vous reprochez aux médias d'en avoir trop fait sur l'entrée de France?
Je pense qu'ils en ont un peu beaucoup fait, oui.
Je le disais en introduction, ça fait des années que vous vous battez, 3 ans, avec l'État pour pouvoir acheter l'hôtel de l'artillerie. C'est un immense bâtiment du XVIIe siècle qui se trouve au cœur de Paris, qui est très peu connu d'ailleurs. Vous avez gagné la semaine dernière, vous avez acheté l'hôtel de l'artillerie, l'État a cédé, il va vous le donner. Ça va changer quoi?
L'État n'a pas cédé, l'État... avec enthousiasme à valider le projet de Sciences Po.
L'État
n'a
pas été toujours enthousiaste.
Vous l'avez dit,
l'État préférait à un moment d'autres offres qui payaient plus cher.
L'État a été très attentif à la défense de ses intérêts en la matière, ce qui nous conduit en effet à payer ces bâtiments à leur prix. 87 millions d'euros, c'est une somme considérable, vous pouvez l'imaginer, pour un établissement comme le nôtre.
Que vous allez payer 100%.
Que nous allons payer à 100% et sans subvention publique, bien sûr. Et s'ajoutent à cela les sommes que nous devrons investir pour restaurer ces bâtiments et les rendre propres aux usages qui sont les nôtres.
Pourquoi c'était important?
Pour nous, c'est un projet absolument majeur. D'abord, ce lieu est absolument extraordinaire. C'est un lieu secret aujourd'hui dans Paris. Moi, je connais un petit peu ce quartier. Je n'avais jamais soupçonné l'existence de ces bâtiments du 17e qui, comme vous l'avez dit, couvrent aujourd'hui quelques 14 000 mètres carrés. Ces bâtiments, nous voulons les restituer à leur vocation initiale, qui est la formation et l'étude. C'était un noviciat de Dominicains à l'origine. Et l'idée, c'est de créer là ce qu'on pourrait appeler un campus oxfordien, c'est-à-dire un campus qui regroupe toutes les fonctions de l'université, une recherche d'excellence, la pédagogie et la formation, dans ce qu'elle a de plus innovant, et aussi la mixité sociale au cœur de ce quartier, avec pour la première fois à Sciences Po et dans le 7e arrondissement des logements sociaux étudiants.
En espérant donc que vous battrez Oxford aussi dans les classements internationaux, pour l'instant c'est pas le cas pour Sciences Po.
On est juste derrière, on est 4e au monde en sciences politiques et relations internationales, ce qui est quand même pas si mal.
Oxford est avant. Qu'est-ce qu'on fait après avoir été patron de Sciences Po?
Alors pour l'instant,
on rêve d'être ministre.
Je dois vous dire que je n'ai pas une seconde pour me poser la question. Je suis à fond dans cette tâche. J'ai mille et mille et mille choses à faire d'ici à la fin de mon mandat. Donc,
vous avez appris la langue de bois sur la dernière question,
Frédéric Mignon.
Merci beaucoup.